IDFM Radio, le média valdoisien.
Merci d'être toujours avec nous sur IDFM Radio, à l'écoute de la matinale. Il est l'heure d'accueillir maintenant une écrivaine, Marie-Christine Renaudot. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes bordelaise et depuis quelques jours, vous êtes sur Paris parce que vous avez notamment assisté, vous êtes venue en séance de dédicace sur le Festival du Livre de Paris.
Oui, c'est ça, exactement.
Au Grand Palais, c'était une première fois pour vous ou non? Vous étiez déjà venue, parce qu'avant, ce Salon du Livre aussi était à la Porte de Versailles.
Oui, non, c'est la première fois pour moi en tant qu'autrice.
Vous avez sorti dernièrement le livre « Quand les portes et les volets sont clos ». On va échanger, on va discuter dans un instant sur ce dernier ouvrage. Mais parlez-moi un petit peu de vous, juste avant. Quel est un petit peu votre parcours?
Alors, aujourd'hui, j'ai 56 ans. J'ai été boulangère des années avec mon ex-mari et j'ai vécu pendant plus de 20 ans des violences conjugales.
La boulangerie, c'est un métier passionnant, en tout cas.
Passionnant, compliqué, fatigant.
Oui, il faut se lever très tôt le matin.
Exactement.
Et on ne part pas beaucoup en vacances non plus.
On ne part jamais en vacances.
Donc, tout ça, c'est passé à Bordeaux?
C'est passé à côté de Bordeaux, oui, tout à fait.
À côté de Bordeaux. Mais vous étiez un petit peu née, en quelque sorte, pour travailler dans la boulangerie ou pas du tout?
Absolument pas. J'ai rencontré mon ex-mari quand on travaillait ensemble en grande surface. Voilà, j'ai fait une fac de psycho, rien à voir, j'ai stoppé, j'ai fait du commerce, et puis j'ai rencontré mon ex-mari.
Et par amour pour cette personne, vous lui avez dit oui, ou vous avez hésité un petit peu?
Alors au départ j'ai hésité, puis après j'ai dit oui.
Et donc ça a duré quelques années, et derrière tout ça, l'emprise d'un homme violent. Hein.
Exactement.
Et c'est compliqué, je suppose, on ne pourra jamais se mettre à votre place d'un jour, en quelque sorte, de le dénoncer et de dire qu'effectivement, cette personne que vous avez aimée pendant des années était violent. C'était tout type de violence, en plus,
voilà,
j'ai l'impression.
Ça. C'est ça, verbal, physique, sexuel, financière.
Et vous en avez parlé quand même à des amis proches au début ou pas du tout?
Pas du tout.
Vous avez tout gardé pour vous, du
Exactement.
Début jusqu'à la fin
juste
presque?
Quasi la fin, oui. J'avais tellement honte que je n'osais pas en parler.
Vos parents aussi?
Personne
de chez personne.
Oui, j'ai attendu que mon père décède en fait pour me dire, parce qu'il m'a dit « je sais que tu n'es pas heureuse ». Et en fait, c'est là où j'ai dit « bon stop, la vie, c'est plus possible cette vie-là ».
Mais même pas, je sais pas, quelqu'un en particulier, parce que des fois on raconte des choses comme ça, vite fait, et puis la personne elle nous dit « oh ben non, c'est pas possible, c'est pas vrai ».
Alors à la fin, oui, mon cri d'alerte était « quand les portes et volets sont clos, on ne sait jamais ce qui se passe », d'où le titre de mon livre. Tout le monde me disait « qu'est-ce que vous avez un mari gentil et charmant ». Et je leur répondais, quand les portes et volets sont clos, on ne sait jamais ce qui se passe.
En fait, c'est toujours ça. Effectivement, la personne est bien auprès de l'entourage ou quoi que ce soit, toujours accueillante, toujours souriante. Mais après, comme vous le dites, et c'est le titre du livre, on ne sait pas, nous, ce qui se passe. Donc, on ne s'imagine pas des horreurs, des atrocités.
Exactement. Et c'est une personne qui m'a dit, quand elle a entendu cette phrase-là, elle me dit... Toi, soit tu es une femme battue, soit tu as été enfant battue. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Parce que je l'ai tellement dit de fois que personne n'avait réagi. Elle me dit, parce que moi, j'étais une enfant battue. Et si tu dis ça, c'est pas pour rien. Et je lui dis, ouais, je suis battue et j'y arrive plus. Et je sais plus comment faire, je suis au bout du bout. Je pense au suicide, et là, j'ai tout déballé d'un coup.
Ça fait du bien aussi, finalement, d'entendre aussi ces paroles-là. Des gens qui vous disent, bah, nous aussi, on a subi, donc du coup... Là, il y a un espèce d'électrochoc
et
si cette personne vous dit, elle vous raconte, elle se confie à vous, du coup, une facilité en tout cas à se confier aussi à elle.
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc on se lâche, on ouvre les vannes et c'est parti. Et elle a été présente pour moi, elle m'a emmenée, lorsqu'il a essayé de me tuer, elle m'a emmenée déposer plainte, elle m'a hébergée et elle est toujours là aujourd'hui.
Il y a eu quand même des jours heureux avec cette personne?
Alors oui, au départ, pour moi. Après, on a eu un enfant, on a mis 6 ans à faire cet enfant. Et oui, il y a eu des moments pour moi heureux. Maintenant, ça s'est vite dégradé. Au bout de 3 mois, il m'a dit « ta gueule ». Ce qui peut arriver, il s'en souvenait pas. Bon. Et puis petit à petit, il a attendu 6 mois parce que je lui ai dit « écoute, on ne me parle pas comme ça ». Et il a mis du temps. Après, il m'a dit « Ah, tu t'es fait couper les cheveux, t'es moche ». En fait,
super, sympa.
Voilà. Si ça ne va pas, écoute, on reste chacun chez nous, c'est plus possible. Enfin, moi, je ne veux pas qu'on parle comme ça. Il y a des façons de le dire et de faire. Déjà, on dit bonjour et ensuite, tu me dis les choses correctement. Donc, il s'est calmé. Et puis, on a ouvert cette boulangerie où là, on est parti à 200 km de chez nous. Et là, ça a commencé l'isolement des amis, de la famille. Et puis ça a été de plus en plus me dire dépêche-toi, t'es bonne à rien, qu'est-ce que tu fais, et t'es même pas capable de faire un enfant tellement t'es pourri de l'intérieur.
Une emprise totale. Qu'est-ce qu'a été le déclic? Vous savez pas, vous savez pas. Est-ce que si je pense que moi j'ai un peu vécu ça, mais moins comme vous. Mais on essaye quand même un peu de comprendre l'autre, la personne. Pourquoi elle devient à un moment donné comme ça?
Toxique. Oui, oui. Moi, il me disait oui, mes parents ne me supportaient pas. Tout était pour ma sœur. Et en fait, je me suis dit mais non. Enfin, y a pas de raison. T'es aussi bien que tout le monde et aussi bien que ta sœur. Y a pas de raison. Et moi, je t'aime et ça va aller.
Et en fait, c'est en repensant à ça que du coup, il s'acharne sur vous.
Bien sûr, bien sûr.
Il a besoin, en fait, en quelque sorte, de déverser, en fait, sa haine qu'il a vécue durant... Je sais pas comment...
Je sais pas. Enfin, moi, les psys m'ont dit que c'est un état d'être, en fait. C'est pas une excuse d'avoir été...
Oui, tout à fait.
Voilà. C'est une façon d'être. Et ça arrive entre 0 et 3 ans. C'est quand les parents disent « je t'aime, moi non plus, je t'aime, moi non plus ». L'enfant ne sait pas... de quel pied danser quelque part. Et du coup, ils deviennent... Alors moi, il a été considéré pervers narcissique à tendance psychopathe, puisqu'il a essayé de me tuer. Donc, ces gens-là deviennent toxiques.
C'est fou, hein, aller jusqu'à tuer quand même quelqu'un.
Il y en a tellement.
Oui, oui, tout à fait.
L'an dernier, on était à 165 féminicides.
Et les femmes ont du mal encore. Hein, et ça, c'est compréhensible. Comme je le dis, on ne peut pas se mettre à votre place. Mais les gens, ils disent toujours, on entend aussi les choses. Mais pourquoi elle ne l'a pas dit plus tôt? Vous l'avez entendu, ça, à plusieurs reprises.
Alors, en ce moment, il y a l'effet Bruel.
Oui.
Et quand vous voyez les commentaires qui sont mis lorsque les femmes parlent, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes ne parlent pas, parce qu'elles ne sont pas crues. Déjà, on met du temps à parler, parce qu'il faut qu'on se soigne avant de parler, déjà un minimum, je pense. On met du temps parce qu'on a peur justement de ces réactions tellement violentes des autres. Et enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on traîne à parler, on traîne à partir. Pourquoi on n'est pas parti? Si c'était aussi simple, il n'y aurait pas eu, comme je dis, 165 féminicides l'an dernier. Parce que cette emprise, elle se tisse au fil du temps. Parce que si on m'avait mis une claque le premier jour, évidemment que je ne serais pas restée, comme toutes les femmes. C'est fait justement plus intelligemment que ça. Et petit à petit, cette personne-là tisse sa toile. Donc ça a été un ta gueule, ça a été t'es moche, ça a été après tu ressembles à un cachalot échoué, tu ressembles, voilà. Mais ça a été mis sur un an et demi, ça.
C'est un vrai traumatisme à vie aussi. Hein.
Alors à vie... Je ne dirais pas à vie, puisque moi je me suis...
Mais là, vous le ressortez quand même.
Oui, je le ressors pour les autres femmes.
Oui, parce que vous voulez aussi aider. Que ces femmes-là
se disent,
s'en sortent grâce, effectivement, à vous et à d'autres femmes qu'on réussit à témoigner.
Exactement, parce qu'on se pense folle, et c'est vrai, il restera des cicatrices à vie, ça c'est certain. En revanche, c'est important de se faire soigner par des psychologues, par des psychiatres, pour comprendre et puis avancer. Moi, j'ai eu cette chance qu'il a été jugé et condamné aux assises. Et ça, c'est énorme, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Il a été reconnu coupable. Et là, moi, lorsqu'il a été reconnu coupable, je vous assure que mes poumons se sont ouverts. Et j'ai respiré, en fait.
Et comment réussir aussi à se reconstruire après
exactement.
Tout ça aussi? Parce que peut-être peur de se remettre en couple.
Bien sûr, il m'a fallu du temps. Et puis, ça se travaille. Exactement. C'est justement, on va voir ces psys-là pour se dire, ben, je ne veux pas retomber sur les mêmes personnes. Donc, il faut faire confiance, il faut... voilà, c'est un travail de longue haleine.
Et votre enfant, aujourd'hui?
Elle a 25 ans. Elle ne voit pas son père, puisque avant de partir... Pourquoi j'ai déposé plainte? Parce qu'il a essayé de me tuer, d'abord. Mais là, je n'ai pas déposé plainte. J'ai juste fait une main courante. Et une autre fois, il est arrivé, il a dit « toi, j'aurais dû te buter ». Donc, il m'a tapé de nouveau, il m'a craché dessus. Et j'ai dit à ma fille « appelle les gendarmes et vite ». Et il lui a dit « si toi, tu fais ça, je te bute avec ta mère ». Et en fait, ça a été mon déclic pour déposer plainte.
Et votre fille a compris, peut-être pas tout de suite.
Elle avait 14 ans, quasi 14 ans à l'époque.
Ah, d'accord.
Donc déjà, ça aide. Et c'est pour ça
donc
que je suis
restée. Donc à 14
ans,
elle a pris conscience.
Exactement. Elle s'est constituée partie civile au procès. Donc elle a entendu l'homme qui était son père. Donc c'était important aussi pour moi, pour elle, mais pour moi aussi, qu'elle comprenne pourquoi j'étais restée aussi longtemps. Et que c'était pas du chiquet quelque part. C'est bleu, je lui disais non mais c'est rien, ça va partir en fait. Et voilà, c'est pas une normalité. Et c'était important qu'elle aille au procès. Aujourd'hui, elle n'a plus de contact avec son père parce qu'elle ne le désire pas à ce jour. Lui, il lui envoie toujours des messages, mais elle ne répond pas pour l'instant, c'est son choix.
Vous avez été aussi marquée par des coups. Est-ce que ça se voyait quand même? Est-ce que les clientes, les clients au sein de la boulangerie pouvaient le voir ou pas?
Alors ça s'est vu une fois, parce qu'il y a eu une fois sur le visage. Le reste du temps, c'était des étranglements. Donc j'avais toujours des cols roulés et c'était sur le corps. Donc j'avais toujours des manches longues et des cols roulés. Aujourd'hui, je suis en chemise. Ça n'arrivait jamais à l'époque en fait.
Donc ça ne se voyait pas.
Vous,
c'était... En tout cas, vous vouliez le cacher. Le cacher.
Exactement. Parce que j'avais honte.
Pour pas, voilà, vous aviez honte.
J'avais honte, tout
ça. Pour pas le rendre coupable aussi, ou pas, ou.
Oui.
Parce que on entend souvent des victimes qui témoignent en disant c'est de ma faute.
Exactement. Exactement. Parce qu'à force de nous rabâcher tous les jours et plusieurs fois par jour, c'est ta faute. Tu me pousses à bout. Tu vois ce que tu es capable de me faire faire. C'est à cause de toi que je fais ça. Je suis obligée de te punir. En fait, au départ, on dit c'est n'importe quoi. Sauf que quand c'est rabâché à longueur de temps, ben, on finit par y croire. Et c'est ça, le pire, en fait. Donc, on se dit, ben, je cache parce que j'ai ramassé, parce que ben, je suis pas allée assez vite, j'ai pas fait le ménage correctement, j'ai pas mis les pains de telle façon, j'ai pas mis les gâteaux de telle façon, j'ai mal pris la commande. En fait, on se remet tout sur nous et on en oublie l'auteur des faits.
Et puis ça vous bouffe de l'intérieur constamment aussi.
Exactement.
Parce qu'il y a un stress qui est là du début de la journée jusqu'à la fin, en fait.
On est en hyper-vigilance constante. Parce que moi, je travaillais avec lui 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'était très, très compliqué.
Bon, il arrivait à partir peut-être de temps en temps pour faire des livraisons, je ne sais pas, non?
Non. Moi, j'arrivais à partir entre midi et deux de temps à autre et faire des courses, mais lui, non.
Et il vous posait la question où vous partez ou pas?
Bien sûr. Il regardait les kilomètres, il vérifiait les tickets de caisse, savoir si j'étais allée ailleurs pour parler, justement. Pareil, lorsque je parlais avec des clients dans le magasin,
avec
il venait.
Oui,
il venait vérifier. Pour écouter.
Donc il y a aussi de la jalousie.
Bien sûr.
Ça implique énormément de choses.
Une possession énorme. J'étais sa chose en fait.
Marie-Christine Renaudot est toujours avec nous sur IDFM Radio. On évoque votre parcours de vie et puis on va un peu plus parler de ce livre qui s'appelle « Quand les portes et les volets sont clos ». Vous êtes autrice conférencière. Le livre est disponible depuis octobre 2025 chez la maison d'édition Hello Édition. À tout de suite Marie-Christine Renaudot.
On se promet que ce film se finira. On ne marchera plus la tête en bas. On ne se cachera plus sous des capuches.
Nous sommes toujours avec Marie-Christine Renaudot sur IDFM Radio. Merci encore d'être avec nous avec votre nouveau livre qui est sorti en octobre 2025, Quand les portes et les volets sont clos. Vous êtes autrice conférencière. Vous avez été sous l'emprise d'un homme très violent. Durant combien d'années exactement?
Plus de 20 ans.
Hein. Vous l'avez aimé. J'espère que lui aussi vous a aimé.
Alors... Moi, je l'ai aimé. Lui a dit au procès qu'il ne m'avait jamais aimé. Mais après,
d'accord. Voilà. Mais ce sont des personnes, en tout cas, qui sont pas très très bien aussi. On l'a expliqué. Un vécu, une enfance, mais après c'est pas une raison pour rejeter la faute sur celle qu'on a choisie pour vivre une bonne partie de sa vie. Vous y avez cru de toute façon. Pour vous c'était l'homme de votre vie.
Pour moi c'était l'homme de ma vie, exactement.
Et finalement ça s'écroule et à un moment donné vous décidez de le dénoncer. Ça prend du temps. Ça
oui.
Prend combien de temps avant de dire que vous êtes sous l'emprise de cet homme?
Ça m'a pris, je dirais, alors il m'a fallu un an et demi après pour déposer plainte. Une fois que je l'ai dit, j'ai mis un an et demi après. Donc.
Et derrière, pas tout de suite, vous sortez un livre qui témoigne, mais pas tout de suite en tout cas.
Non. Alors ce livre, je l'ai écrit petit à petit parce que j'avais un ami policier qui me dit, tu sais, on oublie. Et je lui dis, oh, quand même, il me dit, si, tu verras, on va penser aux choses. Il a essayé de te tuer, il te parle mal. Enfin, il y a des choses, il y a des petites choses qui sont faites tous les jours, quotidiennement, qu'on oublie. Donc, je te conseille d'écrire. Donc, j'ai écrit tous les jours, un petit peu.
Un ami policier, donc, qui vous connaissait
qui était,
depuis longtemps.
Oui, et qui s'en est voulu parce qu'il disait, c'était comme ma famille. Et il y avait tellement de choses, j'aurais dû le voir. Et je ne l'ai pas vu parce que, pour moi, comme vous étiez de ma famille, c'était impossible que ça se passe. Et pourtant, il y avait tellement de signes avant-coureurs.
Donc, lui, il vous dit d'écrire tout.
Voilà.
Donc, au fur et à mesure, en fait.
Alors, non, une
donc,
fois...
Donc, de ressortir, en tout cas,
les... parti.
Une fois que vous êtes parti.
Voilà. Une fois que lui était
mais
en
mais de commencer déjà à écrire.
Donc, j'ai écrit, j'ai raconté le procès, et j'ai écrit après, puisque une fois que le procès était terminé...
C'était quand, le procès?
C'était en 2018. Donc, après, j'ai reçu la médaille de la Légion d'honneur aussi. Donc, tout ça, je l'ai noté. Et puis, j'avais dit, ce livre, il sera pour ma fille lorsque je serai morte. J'ai fait des plateaux télé. Et puis, la deuxième fois, j'ai fait Ça commence aujourd'hui, deux fois.
Avec Faustine. Hein,
voilà.
Sur France 2.
Sur
Faustine Bollard.
Voilà. Et Faustine.
Qui est très
dit,
à l'écoute, en plus, des invités.
Exactement.
En règle générale.
Exactement.
Elle est très attentive, très à l'écoute.
Exactement.
Elle le fait même, je crois, à côté, hein.
Oui.
En dehors sur
RTL.
Je sais pas si elle, oui, RTL, mais je crois qu'elle a sur les réseaux sociaux aussi. Elle poste des fois des vidéos.
Exactement.
Et ça, c'était en quelle année, pardon, Faustine Bollard?
Alors, c'était l'an dernier, au mois d'avril. J'y suis allée il y a 2 ans.
Très bien.
Voilà. Donc, c'est vraiment récent. Et l'an dernier, elle me dit, mais parce que j'étais avec une autre femme qui avait écrit son livre. Elle me dit, pourquoi toi, tu n'écris pas un livre? J'ai dit, mais en fait, mon livre, il est écrit. Elle me dit, alors? Ben, j'ai dit, en fait, j'ai de la pudeur. Elle me dit, comment ça, vous avez de la pudeur? Avec les assises où on parle de viol? Je comprends pas. Et en fait, ces mots ont résonné en moi. J'ai dit, mais c'est vrai. Mais enfin, voilà. Et de ce fait, bah, j'ai envoyé mon manuscrit. Et puis, on m'a dit, bah, en fait, c'est OK, quoi.
Vous l'avez envoyé à plusieurs maisons d'édition?
Alors, j'ai envoyé à Maïli, elle s'appelle. Donc, c'est une correctrice, relectrice. Et elle me dit, mais en fait, il n'y a rien à changer. Il y a une phrase qui me dérange. Et cette phrase, soit on l'enlève, soit on en fait un chapitre. Et cette phrase, c'était, j'ai pensé à le tuer. Et je savais que cette phrase-là allait déranger. Et j'ai dit, mais en fait, je vais en faire un chapitre parce que toutes les femmes qui vivent ça, on y pense. Et je pense qu'on a tellement honte de le dire. Donc voilà, ce livre, il est fait avant tout pour dire, pour moi, mais aussi pour les autres, dire qu'elles ne sont pas folles et qu'on a le droit de penser à ça, en fait.
Oui, et vous n'allez pas jusqu'au bout.
Et voilà, la raison revient, évidemment, évidemment, on n'y va pas. Mais on se dit, ce serait tellement après un viol, moi, quand il se... tourner pour se rendormir, en fait, je me disais, si je plante un couteau là, ça s'arrête, quoi. Tout s'arrête.
Bah, c'est surtout que ça vous retombe dessus.
Ouais, non, mais je me disais, tout s'arrête, toute cette violence-là s'arrête.
Ah oui, oui, aussi, en fait. oui, c'est sûr,
ça.
C'est sûr.
Mais tout de suite après, je dis, mais en fait, notre fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? La police va arriver, personne va comprendre, personne ne sait, donc c'est pas possible. Mais on a cette fraction de seconde où on se dit, tu vois, je fais ça et c'est fini, en fait, c'est fini, on a la paix. On a la paix. Ça, tout s'arrête.
Bah, les femmes l'ont fait, en tout cas.
Les femmes l'ont fait.
Mais du coup, elles se retrouvent après en prison.
Exactement.
Et puis, c'est des longues procédures.
Exactement.
Ça dure très longtemps.
Exactement.
La justice, on connaît, en France, c'est pas très rapide encore.
Non.
Donc,
non, tout à fait. Donc, la raison revenait évidemment derrière. Mais donc, j'ai voulu le notifier dans ce livre. Donc, elle me dit, bah, faites-en un chapitre et puis on verra. Et j'ai fait le chapitre. Et elle m'a dit, bah, écoutez, j'envoie ça aux maisons d'édition. Et j'ai eu 5 retours de maisons d'édition où on m'a demandé, certaines m'ont demandé de le romancer. Je n'ai pas voulu. Et j'ai écrit des petits chapitres.
Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Effectivement, ça ne se lit pas comme un roman.
Non.
C'est par chapitre. Pourquoi justement cette décision?
Alors, il y a 2 raisons. Ces chapitres courts, c'est à la fois pour montrer la violence quand le lecteur lit, voir cette violence qu'il peut y avoir, en fait, qui rentre dans ma vie. Et la deuxième raison, mon livre est pris souvent par des avocats, des médecins, des thérapeutes. Ces femmes qui vivent encore ça n'ont pas forcément, ne peuvent pas avoir ce livre-là chez elles. Et si elles le voient chez leur thérapeute, chez leur avocat, chez leur médecin, elles peuvent lire 1 ou 2 chapitres à chaque fois qu'elles vont en consultation. Et c'est super important. Moi, je sais, j'ai des retours d'avocats qui me disent... On avait des doutes sur ce que subissait cette femme Et de ce fait, je lui ai mis ça entre les mains. Elle est revenue en pleurant dans mon cabinet. Et j'ai dit, ben voilà, c'est bien, on a mis le doigt où il fallait. On ne va pas faire un divorce à l'amiable, madame. Je vais vous accompagner, on va déposer plainte. Ça, c'est quelle victoire, en fait, pour moi. Je me dis, si ça peut aider, mais quel bonheur.
Oui, après, vous avez été soutenue, en tout cas.
Oui.
Conseillée.
Exactement.
Et vous avez suivi, effectivement, quelqu'un aussi.
Exactement.
Qui vous a écouté, qui vous a compris. Et
qui m'a emmenée, qui m'a... Voilà. Et grâce à elle, bah, je suis là face à vous aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, ça va ?
Oui, très bien.
Vous êtes épanouie ?
Oui, j'ai retrouvé quelqu'un, j'ai refait ma vie. Voilà, tout va bien.
Votre fille, vous la voyez aussi régulièrement ?
Exactement, elle travaille, elle est heureuse. Quoi demander de plus ?
Et aujourd'hui, du coup, ça vous amène ce livre, Quand les portes et les volets sont clos, à être conférencière ?
Oui.
Ça consiste en quoi ? À parler effectivement de ce que vous avez vécu.
Alors,
vous vous adressez à qui essentiellement quand vous donnez des conférences ?
Alors, ça peut être dans des entreprises où je parle des violences sexuelles. Je peux aussi aller, j'ai tourné un film, un documentaire, où on était 10 femmes battues. Et après, donc, ce qui s'appelle Il faut couper dès la racine. Et lorsqu'il passe à certains endroits, on fait des débats derrière. Et donc, j'organise, moi, ces débats. Et ben, je m'adresse à une population qui peut être autant d'avocats que de femmes battues ou d'aidants qui sont à côté, qui n'ont pas de clé. Comment faire ? Je suis là, je sais qu'elle est battue. Elle veut pas partir, ou elle est partie, elle est revenue. Comment je peux faire ? Et en fait, voilà ce que je fais régulièrement.
C'est très important.
Ouais, c'est super important.
Ça permet aussi aux personnes d'ouvrir les yeux.
Ouais, d'être à l'écoute de l'autre. Parce que cette phrase que je disais, quand les portes et les volets sont clos, c'était pour les gens une phrase, je disais pourquoi elle dit ça. Et au final, aujourd'hui, ces gens-là prêtent un peu plus attention. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ah, mais c'est vrai qu'elle m'a parlé un petit peu, qu'elle disait, lorsque il faut pas croire tout ce que l'on dit. Et il me dit, bah, j'ai trouvé ça bizarre. Et en fait, je lui dis, oh, il y a peut-être une raison. Il me dit, bah, je vais lui poser la question. Et en fait, effectivement, elle lui a dit, oui, je subis des violences.
Donc ce livre va résonner, bien évidemment.
Évidemment, je l'espère.
Partout, dans différents salons. Vous étiez au Festival du Livre de Paris, au Grand Palais, il y a quelques jours.
Tout à fait.
Il y aura d'autres salons par la suite, cet été.
Oui.
Et c'est un livre de toute façon qui va durer aussi dans le temps, puisque c'est un témoignage de votre part, Marie-Christine Renaudot. Je voulais aussi préciser qu'une femme sur cinq ose porter plainte, mais plus il y a de témoignages, plus peut-être ces femmes iront, je l'espère, déposer plainte.
Prendre confiance, c'est leur dire qu'on peut les accompagner aussi lorsqu'on va déposer plainte. Ça peut être l'avocat, mais ça peut être un aidant qui peut les accompagner de faire ce pas, pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. C'est très compliqué, puisqu'on sait qu'on va déposer plainte contre son compagnon ou sa compagne. Et ce n'est pas simple.
Non, parce que est-ce qu'il peut y avoir aussi une protection en quelque sorte un peu rapprochée de ces femmes
pas...
C'est ça, on porte plainte, mais si derrière l'autre le sait, on a peur des
voilà,
conséquences.
Et moi j'avais peur. Et parce que cet ami policier m'a dit enregistre, parce que sinon personne ne te croira. Il est tellement gentil à l'extérieur que personne ne te croira. Et moi ce qui m'a sauvée, c'est cet enregistrement où il me dit par téléphone, toi t'aurais dû crever. Je t'ai loupé, mais je te crèverai.
Et vous avez enregistré du coup
sur le téléphone.
D'accord.
Et c'est super important. Et lorsque j'ai déposé plainte, j'ai dit à la gendarme qui m'a reçue, je dis voilà, dans mon téléphone, j'ai un enregistrement. Ils ont pris mon téléphone pour vérifier que ce n'était pas un montage, bien évidemment. Ils l'ont gardé plusieurs heures, voire une journée, je crois. Et grâce à cet enregistrement, il est parti en détention provisoire.
Donc faire des vidéos, s'enregistrer, effectivement.
Exactement. C'est
aujourd'hui,
super
important. J'ai envie de dire, c'est beaucoup plus simple. On a tous un téléphone portable et puis on peut l'allumer normalement très rapidement.
Voilà.
Et il s'allume presque tout seul et puis il tourne et puis il va entendre, il va enregistrer des choses, des images aussi. Vont prouver en tout cas que cette personne était vraiment
toxique et violente.
Donc ils veulent de plus en plus de ça aussi. Parce que si vous portez plainte en disant cette personne m'agresse, me viole,
c'est
mais où sont les preuves ?
C'est en huis clos. C'est bien ça le problème à chaque fois.
Oui, oui, c'est ça.
Il existe, donc, lorsque j'ai fait l'émission d'Olivier Delacroix, ils font bouger les lignes. J'ai quelqu'un.
Ça, c'était sur France Télévisions aussi?
Oui, tout à fait. Et une personne m'a contactée et elle vend des boutons Mon Chérif. Elle m'en a envoyé. Les boutons Mon Chérif, c'est un tout petit bouton.
Ah oui, c'est discret, oui, tout à fait.
Que l'on met sur une bretelle de soutien-gorge. Il y a soit un clic où on peut prévenir des gens, mais 5 contacts. Tout va bien. 2 clics, ça va pas bien. Et le dernier clic qui est super important pour moi et le plus important, je trouve, c'est on peut enregistrer. Donc, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer. Il y a un viol, il y a une scène violente. Il vous tape. Tout est pris, en fait, dedans. Et ça, on peut aller déposer plainte grâce à ça. Et là, il y a des preuves. Ce n'est pas en huis clos, ce n'est pas entre quatre yeux, l'histoire. Là, il y a eu des preuves de fait. Et c'est là où, derrière, ben, je pense que grâce à ça, on va pouvoir avancer.
Merci beaucoup Marie-Christine Renaudot d'être passée aujourd'hui sur EDFM Radio. Quand les portes et les volets sont clos, c'est sorti en octobre dernier chez la maison d'édition Hello Édition. À bientôt, bonne Merci continuation. Beaucoup. Et puis c'était important en tout cas pour nous de vous recevoir et d'entendre votre témoignage. Bonne continuation Marie-Christine.
Merci à vous.
La suite de la matinale dans un instant sur EDFM Radio.